Québec. Mauvais.
Ready for this? Live. Très, 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 très bon.
Live.
C'est pas une blague, là.
Avec Dominique Moret.
Les meilleurs au monde.
Radio X.
Parents et amis.
Parents et amis.
Voici Sarah.
Voici Sarah.
Sarah Ursula Terrien.
Ursula Terrien.
Salut Sarah, comment ça va?
Ça va bien, merci. Toi aussi?
Oui, parfait. Ça va être un beau jeudi. C'est presque un deuxième long week-end là, avec le soleil et tout. Puis le Canadien commence une nouvelle série. Par contre, il y a des choses plus sérieuses à parler, Sarah. Puis j'en ai glissé un mot hier, mais l'aide au devoir qui est maintenant passée au privé.
Oui, absolument. Bien, c'est ça. Il y a comme. En fait, cette semaine, il y a deux nouvelles là, en éducation qui ont vraiment attiré mon attention. Puis je pense qu'ensemble, ben ça raconte quelque chose qui est quand même plus gros que ce qu'on peut penser. Fait que dans le fond, Radio-Canada là, révélait hier que oui, les écoles publiques québécoises ont de plus en plus recours à la fameuse sous-traitance privée pour être en mesure, en fait, d'offrir certains services. Mais aussi, en même temps, on a comme l'information là que, en fait, on en entend parler là à chaque année. Des fois, ça passe un peu sous le radar, mais le fameux indice de défavorisation des écoles qui est sorti aussi cette semaine, puis qui est dans un vent de mouvance. Hein. Il y a comme un renouveau là par rapport à cet indice là qui vient aussi enlever une certaine proportion de budget dans des milieux qui peut aussi encourager là la traitance dans les milieux privés. Les deux sont quand même vraiment reliés là, parce que finalement, dans le fond, ils parlent du même problème, c'est-à-dire que le Québec essaye de gérer une augmentation énorme des besoins chez les jeunes avec un réseau qui manque de ressources humaines partout. Puis ça soulève une question que je trouve vraiment importante. Est-ce que collectivement, on est encore capable d'offrir aux enfants l'aide dont ils ont besoin au bon moment?
Parce que les parents, on va le dire, sont plus outillés pour suivre, parce que ça a complètement changé. Ouais. L'école à laquelle on a été, nous autres, quand on était jeunes, c'est plus pantoute le même programme.
En effet, écoute, j'étais pas dans la réforme, moi non plus, puis je me dis, my God, le jour où mes enfants vont être à l'école, ça se peut aussi que je perde un petit peu le fil, mais c'est vrai que c'est un discours qui ressort beaucoup là des parents, règle générale, que ben des fois tu essaies de leur donner un coup de main aux enfants, mais c'est vrai, tu sais, il y a plusieurs méthodes d'apprentissage qui sont plus les mêmes, les termes utilisés en français, en mathématiques, il y en a plusieurs aussi qui ont changé au fil du temps.
Oui.
Donc tout ce qui est aide aux devoirs, mais là c'est même aussi les cours d'été et pas juste ça. Les élèves aussi qui sont déscolarisés des écoles régulières finalement et qui doivent être scolarisés à la maison là pour toutes sortes de raisons, ben ils ont besoin aussi d'enseignants là dans ce contexte-là et ils font aussi appel à des compagnies en sous-traitance pour avoir des enseignants au privé qui vont pouvoir permettre une scolarisation ne serait-ce qu'à temps partiel avec un enseignant mais à distance. Donc c'est quelque chose qui est de plus en plus répandu. Et au-delà de ça, depuis quelques...
Juste préciser que ça arrive parce que il n'y a pas de professeur qui lève la main pour le faire ici. T'sais, l'aide aux devoirs, entre autres, spécialement, là, ça se fait en ligne parce que quand ils ont vérifié, « Hey, y a-t-il quelqu'un qui aiderait pour l'aide aux devoirs? » Il n'y a personne qui lève la main. Mais bon, ben, on va aller chercher un service externe au privé.
Oui, absolument. Ben, tu sais... Faut dire que, tu sais, actuellement, je reviens au point là concernant l'indice de défavorisation là,
oui,
des écoles, parce que je pense qu'il y a quand même une partie de l'explication qui peut provenir un petit peu de là. Pour comprendre le débat actuel, là, faut comprendre aussi comment cet indice-là est calculé puis à quoi il sert. Historiquement, le gouvernement là, il utilisait surtout deux grands indicateurs. Le premier, c'était le niveau de scolarité de la mère, donc le niveau obtenu. Et si la mère n'a pas réussi à obtenir un diplôme, par exemple d'études secondaires ou une formation reconnue, l'indice de défavorisation augmente. Puis ça représente à peu près le 2/3 du calcul. Le deuxième facteur, c'était le taux d'emploi des parents et donc nécessairement aussi le revenu familial. Ça représentait environ l'autre tiers pour une partie du calcul. Puis dans le fond, chaque enfant apporte là, un pourcentage, on va dire, à son école pour l'indice. Fait que là, toutes les écoles étaient classées de 1 à 10, 1 étant les milieux les plus favorisés, oui. 10 étant les plus défavorisés. Puis, ben, c'est sûr que quand une école monte dans l'indice de défavorisation, ben, ça veut dire qu'il va avoir davantage d'aide spécialisée, plus de soutien psychosocial,
moins d'élèves par classe.
Entre autres, tu sais, ça oui. peut venir avec des mesures, mais ça vient aussi avec le personnel, parce que il y en a du personnel qui va être engagé grâce à ces suppléments-là dans le budget. Donc, dans ces contextes-là, c'est possible et c'est facile même d'aller chercher justement des enseignants pour lesquels, exemple, on va être capable de libérer du temps pour de l'aide aux devoirs. Même des fois avec, exemple, le service de garde.
Ben, en gros, ce que tu dis, c'est si on est capable de payer, les enseignants vont être là.
Ben écoute, ça en fait partie. Puis, tu sais, l'indice, je reviens encore à ce fameux indice-là parce que, tu sais, il y avait quelque chose qui fonctionnait plus du tout dans le calcul. Fait que là, ils sont en train de modifier, d'actualiser plutôt la façon de le calculer.
Oui, parce que là, je veux ajouter ça. Ils sont beaucoup basés sur le recensement. Donc là, ils ont comme rendu que les nouveaux chiffres...
Mais ça datait de 2016.
Ça datait de 2016. Là, le changement, c'est celui de 2021. Mais même à ça, c'est parce que là, il y a certaines écoles, entre autres, dans la région même, qui sont allées voir, qui ont passé de 1 à 8, donc favorisé à quand même pas loin d'être ultra défavorisé. Puis il y a aussi l'inverse. Et là, tu vas voir les directeurs des écoles, puis ils sont comme, ben c'est parce que je ne sais même pas ce qui a changé pour vrai. Moi, je la vois pas la différence sur le terrain, là. Mais le budget va changer, les ressources vont changer.
C'est ça. C'est dans les ressources, dans le budget à venir. Mais oui, tu sais, dans le fond, là, dans les dernières années, ils utilisaient encore des données de 2016. Mais tu sais, on s'entend que le portrait social des familles a vraiment changé en 10 ans. Tu sais, l'explosion du coût de la vie, la crise du logement. Tu sais, depuis la pandémie on a une augmentation significative des besoins. Donc, il y avait plusieurs milieux qui semblaient relativement corrects sur papier, mais que dans les faits, il y avait une augmentation énorme des besoins, puis l'inverse pouvait aussi être vrai. Sauf que de la façon dont il modifie quand même le changement, règle générale, il y a moins d'écoles qui ont un indice de défavorisation comme très élevé. Donc, ultimement, ça va amener quand même moins de ressources. Parce qu'il y a plusieurs écoles qui changent de catégorie.
Ouais.
Donc, tu sais, on n'est pas, dans le fond, proche de voir des milieux où ça va se stabiliser. Tu sais, la disponibilité des adultes dans l'école, la rapidité des services, tu sais, c'est des choses qu'on risque pas de voir se régler prochainement parce que, ben, il n'y en a pas là, de budget, là, ultimement. Là.
Mais tu sais, on s'entend pour dire qu'il faut absolument faire quelque chose. Ce n'est pas l'idéal. On a parlé de la pandémie. On a passé 3 ans à dire que c'était pas normal que les enfants soient devant un écran d'ordinateur pour apprendre. Puis là, ce qu'on apprend, c'est qu'on va faire ça pour l'aide aux devoirs.
En effet.
On va faire ça pour les cours d'été. En fait, on va faire ça pour les élèves qui sont le plus vulnérables.
Ouais.
Oui, puis tu sais, c'est sûr que ça a un impact sur les élèves vulnérables, mais je te dirais que ça a un impact quand même pour tous les élèves de tous les milieux, parce que nécessairement, quand ça déborde en termes de besoins par rapport aux élèves vulnérables, ben c'est sûr que ça vient pénaliser aussi les élèves qui sont en réussite, puis pour qui ça va bien, parce qu'ils ont moins de temps, eux autres aussi, là, qui leur sont accordés. Fait que tu sais, je pense qu'il faut quand même être capable d'avoir une discussion qui est nuancée, parce que, bon... il y en a là, qui montent sur leurs grands chevaux. Hein, ça y est, on veut privatiser l'éducation, catastrophe et tout ça. Mais en même temps, mais ces enfants-là, ils ont des besoins. Comment on fait pour les aider ici, maintenant? Parce que, tu sais, si on attend trop longtemps, ben ça va nous coûter cher, là, pas juste financièrement, là, humainement. Tu sais, un jeune qui accumule des échecs ou des retards académiques de façon générale, ben à un moment donné... ce ne sera pas aidant. Là. Il faut absolument faire quelque chose. Fait que je pense quand même que d'avoir accès au privé dans le contexte est moins pire que de ne rien faire. Sauf qu'on a comme un paradoxe social présentement. T'sais, le Québec forme des orthophonistes, des enseignants, des orthopédagogues, peu importe les professionnels, mais le réseau public arrive difficilement à les recruter, à les retenir, à offrir des conditions qui permettent là, de répondre finalement rapidement aux besoins. Fait que c'est sûr qu'on a un enjeu. Là. Il y en a des gens, mais ne sont pas nécessairement dans le réseau non plus. Là. C'est ça qui arrive.
Voilà, Sarah, pour tous les parents qui ont des questions en psychoéducation, ils peuvent te rejoindre à la Clinique de la Résilience.
Oui, la clinique Le Chemin de la Résilience, exactement. Donc, normalement, si les gens nous cherchent, on n'est pas trop difficile à trouver. Là, on est situé à Charlebourg, puis www.lechemindelarésilience.com, meilleure façon là, pour nous rejoindre et avoir toutes les informations sur la clinique.
Merci, Sarah. Tu seras de retour mardi prochain en studio.
Absolument.
Bye bye.
Bye. Bonne fin de semaine.
Bonne fin de semaine, Sarah Ursula-Terrien, à qui on parle de nos petits trésors. On les appelle de même parce que c'est réellement nos petits trésors. Juste faire un petit. Oui.
C'est quoi le nom de ton école primaire?
L'école Jouvence.
Jouvence.
Ouais, j'allais là, moi. À Sainte-Foy.
Et tabarouette. OK. Ben, regarde, eux autres, justement, je serais curieux. Ah non, OK. À Québec. OK, excuse. Ouais. Bon, mais c'est des privilégiés. C'est un, la
c'est
cote.
Un. Mais c'est Sainte-Foy, tu sais, c'est à côté de Cap-Rouge.
Moi, j'allais à Fourmilière, puis c'est 8.
Oh, pas pareil, hein?
Non.
Mais tu vois, t'es à la même place ce matin.
Mais ça a changé, ouais, mais ça a changé versus quand moi, j'étais là. Quand moi, j'étais là, c'était probablement 3-4.
OK, ça a été modifié.
C'est devenu un 8 avec le temps.
Juste faire le point et vous dire que ça brasse pas mal là, au niveau de la circulation. Surtout Charest, il y a des accrochages dans les deux directions. L'accès au centre-ville est compliqué par Charest. L'accès au pont également pour les gens de la Rive-Sud puis Capitale. C'est comme d'habitude, obtenez 20 000 points chez Pharmaprix lorsque vous ouvrez votre application PC Optimum, magasinez, scannez, accumulez des points, une valeur de 20 $ dès vendredi. Conditions dans l'application. Nick Payne au retour.
Morel.
Wow. Restez là. On revient dans pas long.
Live.
Radio X.